Hello, c'est Edwige Adrienne et Emmanuel de l'équipe Fort Éclair, le podcast des jeunes IHEDN.
Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique, alors inspirez-vous.
Votre épisode commence maintenant.
Bonne écoute sur Fort Éclair.
Avez-vous déjà évoqué vos cours d'histoire avec vos grands-parents ? Si vous l'avez déjà fait, je suis certain que vous avez pu constater que les faits historiques ne sont plus traités avec le même angle. Et pour cause, l'enseignement de l'histoire en France a beaucoup évolué depuis 1950, selon les événements politiques qui ont eu lieu. La Seconde Guerre mondiale, la collaboration, la décolonisation dans les années 60 ou encore mai 68, ces événements ont influencé la façon dont l'histoire est enseignée en France. Mais si cette matière est dispensée pour que nous puissions connaître notre passé, son contenu peut être altéré selon l'idéologie du gouvernement en place. Pour illustrer cette problématique, une phrase me vient immédiatement à l'esprit. « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur ». Cet effrayant slogan, signé George Orwell, provient du ministère de la Vérité, chargé de réécrire l'histoire afin d'orienter la propagande du parti. Mais si 1984 reste un roman dystopique, cette simple phrase peut nous permettre de nous projeter, de nous demander comment l'histoire est enseignée dans nos classes, mais aussi dans celles de nos voisins européens. Les Allemands, par exemple, reçoivent-ils les mêmes enseignements que nous ? L'histoire, qui a souvent été maniée à des fins belliqueuses, pourrait-elle devenir un instrument de réconciliation entre des peuples ? Pour répondre à ces questions, je me suis tourné vers Alain Lamassoure. Ancien député national et européen, il a aussi été ministre des Affaires européennes et ministre du Budget. Aujourd'hui, il occupe la position de président de l'Observatoire européen de l'enseignement de l'histoire à l'école. Cet observatoire est une initiative du gouvernement français, il est propulsé par le Conseil de l'Europe. Alain Lamassoure, quelle est sa mission ?
L'objectif de l'observatoire, c'est tout simplement de faire la photographie de l'état des lieux. L'originalité de l'initiative, c'est que nous n'allons pas porter de jugement. Tel événement, telle tragédie qui concernait deux pays voisins, voilà comment elle est racontée dans un pays, voilà comment elle est racontée dans le pays voisin. Ou voilà comment elle est totalement ignorée dans le pays voisin. À partir de là, jusqu'à présent, personne ne le savait, parce que, de manière assez curieuse, chacun ne s'intéresse qu'à ce qui se passe chez lui en matière d'enseignement. Pour tout ce qui est sciences humaines, on ne s'intéresse pas à ce qui s'enseigne au-delà de nos frontières. Et là, tout d'un coup, on va découvrir qu'au-delà de nos frontières, ce qu'on enseigne sur l'histoire, mais d'ailleurs aussi sur la géographie, sur l'anthropologie, sur la sociologie, sur la science économique, est très différent entre pays voisins, et y compris sur des matières pourtant aussi importantes pour la construction européenne, entre pays membres de l'Union européenne sur leur passé commun.
Donc, cela signifie que les différents pays de l'Union européenne ne disposent pas d'un enseignement centralisé, un socle de connaissances communs ?
Non. Chaque pays a son programme d'histoire. Il faut rappeler que l'histoire et l'éducation en général n'est pas une compétence partagée par l'Union européenne. Ça peut être une compétence dite d'appui, et c'est ainsi que le programme européen le plus connu, le plus populaire, celui qui marche le mieux et celui auquel les jeunes sont le plus attachés, Erasmus, est entièrement financé par l'Union européenne et permet des centaines de milliers chaque année d'échanges à la fois de jeunes, d'enseignants et même de plus en plus d'apprentis. Mais sur la conception du système éducatif, le contenu des programmes, que ce soit les sciences humaines telles que l'histoire ou les sciences dures, chaque pays est maître de son organisation, peut exercer la compétence au niveau national ou dans les pays fédéraux comme l'Allemagne au niveau des régions, des Länder. Et donc, ce sont non seulement des programmes différents, mais aussi des conceptions de l'histoire, du récit du passé différentes. En France, on considère que la priorité, c'est d'apprendre des faits, des histoires. L'histoire est une série d'histoires dont il faut comprendre la logique et sur laquelle il faut se faire son opinion. En Allemagne, la priorité, bien sûr, on apprend aussi des connaissances, mais c'est d'apprendre la compétence du chercheur en sciences humaines, la compétence de l'historien. Aller à la rencontre des faits, vérifier les faits, confronter les témoignages, se faire son opinion personnelle. Et donc, il y a autant de récits qu'il y a d'États de l'Union européenne, et je dirais au-delà du continent européen. Il y a dans l'Union européenne même des pays qui enseignent l'histoire à l'ancienne, je dirais, selon un point de vue très centré sur la nation, avec un ton un peu chauvin. Il y a des pays qui, au contraire, se sont culpabilisés pour toutes les tragédies du passé, notamment du XXe siècle, guerre mondiale, génocide, Shoah, qui ont suivi le colonialisme, l'esclavagisme, etc., et qui sont tentés de parler du passé le moins possible, en donnant quand même des éclairages sur ce que furent les grandes civilisations, les temps forts de la naissance de la modernité, l'apparition de la science, de la technologie, de la révolution industrielle, des lumières, de la renaissance artistique, etc., mais sans s'apesantir sur les pages sombres et les pages lumineuses de l'histoire nationale ou de l'histoire de ce qu'on peut appeler la civilisation européenne. Et il y a des pays où l'histoire n'est même pas enseignée du tout, et où elle est au mieux une matière à option au niveau du baccalauréat ou de l'équivalent. Dans tous les pays, nous avons un examen de fin d'études secondaires. Et donc c'est très fâcheux parce que ça ne facilite pas l'entente entre les Européens, en particulier pour la jeune génération.
L'Observatoire va justement publier le premier rapport général de cet état des lieux vers la fin de l'année. Mais concrètement, cette étude est-elle vraiment nécessaire? Pourquoi y en aurait-il besoin?
Au XXIe siècle, l'apprentissage de l'histoire est beaucoup plus difficile qu'avant. Pourquoi? Parce que dans tous nos pays, c'est quelque chose que nos auditeurs doivent réaliser. Toutes nos nations, sans exception, sont nées dans la guerre, par la guerre et pour faire la guerre. Et l'enseignement de l'histoire comme discipline scolaire est apparu au moment de la création des nations, c'est-à-dire pour la plupart des pays européens au XIXe siècle ou pour certains au XXe siècle. Et à ce moment-là, concevoir l'enseignement de l'histoire était très simple. Il s'agissait de former des petits patriotes qui connaissent les exploits de leurs ancêtres, les exploits guerriers, militaires notamment, et qui se préparent à mourir pour la patrie, pour défendre l'indépendance ou au-delà les ambitions, toutes légitimes par définition, de leur patrie. Mais voilà, après 1945, sur le continent européen, nous nous sommes lancés dans la construction européenne. Et nous bâtissons une sorte de nouvelle entité politique, une sorte de cathédrale politique nouvelle, sans équivalent dans le passé, sans équivalent pour l'instant ailleurs dans le monde, et qui a réussi un but fou, utopique, la paix entre ses membres, et une paix qui n'est pas simplement une absence de guerre, qui est la réconciliation des cœurs. Quand on demande maintenant aux Français « Quel est à votre avis le peuple le plus proche du peuple français ?», deux Français sur trois répondent spontanément, naturellement, le peuple allemand. Et symétriquement, en Allemagne, c'est un miracle, au sens le plus fort du terme. Quand on dit ça aux jeunes, ils baillent d'ennui. Ben, ça va de soi, l'Europe c'est la paix. Non, ça va pas du tout de soi. Et ça n'est pas du tout éternel, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et alors du coup, lorsqu'il s'agit maintenant d'enseigner le passé au lycée, il faut à la fois tenir compte du besoin d'appartenance, de se raccrocher à une identité collective que nous évoquions tout à l'heure. Nous avons besoin, nous Français, de savoir ce qu'ont fait nos pères, nos grands-pères, ce qu'ont fait nos ancêtres, comment l'État français est né, la nation française est née, la République française est née. Même chose pour les Allemands, pour les Espagnols, pour les Lettons, pour les Slovènes. Mais nous avons besoin d'apprendre cette histoire, non pas avec l'idée de se préparer à des conflits avec les voisins, mais avec l'idée, au contraire, de renforcer notre amitié, notre cousinage avec les pays voisins que nous avons considérés pendant des siècles comme des ennemis héréditaires et que nous considérons maintenant spontanément comme nos meilleurs amis. Et donc, il faut combiner les deux. Et c'est assez difficile. Enseigner l'attachement à l'identité, à la famille la plus proche, qui est la famille nationale, mais aussi montrer que cette famille, non seulement n'est pas menacée par les voisins, mais peut s'enrichir de l'appartenance à une grande famille européenne commune. Et ça, c'est ce que des institutions internationales comme l'UNESCO, comme l'Union européenne, comme le Conseil de l'Europe, qui siège à Strasbourg, qui rassemble tous les pays au sens géographique du continent européen, et c'est l'organisation auprès de laquelle notre observatoire est créé, toutes ces institutions recommandent régulièrement à tous les États membres. Malheureusement, les observations qu'on peut faire quand on se déplace en Europe montrent que, dans beaucoup de pays, ces recommandations ne sont pas suivies de très très près.
Je souhaiterais justement rebondir sur ce propos, car vous avez dit que l'Observatoire ne porterait pas de jugement. Il ne fera donc pas de recommandations. Quel serait alors le but de l'étude que vous comptez publier ?
Ce que nous espérons, c'est provoquer un mouvement du bas vers le haut, bottom-up, diraient les anglo-saxons, pour que les opinions publiques, les médias intéressés, les enseignants, les parents, les étudiants, les parlements nationaux ou régionaux réagissent, fassent des recommandations, que sans doute il y aura des organisations non gouvernementales qui noteront les bons ou les mauvais élèves. Nous ne le ferons pas, nous nous contenterons de... encore une fois, de faire la photographie sans le moindre commentaire, mais nous espérons qu'il y aura, à partir de là, une prise de conscience qui déclenchera un mouvement général vers l'amélioration.
J'aimerais tout de même savoir, s'il vous plaît, d'après vous, de quoi aurait-on besoin dans notre enseignement d'histoire ?
Ce dont, manifestement, nous avons tous besoin dans l'Union européenne, c'est que, au titre de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire de la période la plus récente, la construction européenne soit enseignée en tant que telle. Or, de manière très surprenante, et je serais tenté de dire scandaleuse, dans la moitié des pays membres de l'Union, ça n'est pas le cas, y compris dans certains pays fondateurs. En France, on apprend les principales étapes de la construction européenne, pas forcément de manière très intéressante pour les jeunes, en consacrant trop de temps sur les institutions, le jeu institutionnel, qui est évidemment abstrait et ennuyeux. C'est un petit peu comme si on prétendait intéresser les Français à l'histoire des deux derniers siècles, la période contemporaine, 19e, 20e, en leur racontant les différences des 13 constitutions successives auxquelles la France a eu recours pendant cette période. Il vaudrait mieux se concentrer sur les personnages qui ont été de grands hommes, des personnalités de très grande envergure, Jean Monnet, pourtant un autodidacte qui était simplement marchand de cognac, mais qui a été une sorte de Jeanne d'Arc de la paix mondiale pour le XXe siècle, et en particulier de la paix européenne, mais aussi Robert Schuman, Konrad Adenauer, l'Italien Alcide De Gasperi, le socialiste belge Paul-Henri Spaak, etc. Et je crois, comme vous le suggérez à travers l'exemple de la Lituanie, ce qui est extrêmement important, si on veut consolider la réconciliation entre nos peuples, c'est que dans ces cours d'histoire, chacun prenne l'habitude d'écouter aussi le récit des autres. Alors, pas tous les récits de tous les autres, bien entendu, mais au moins, quand, par exemple, nous racontons la fin de la Première Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale, que l'on raconte bien sûr ce qui s'est passé en France, dans d'autres pays, ou en Allemagne ce qui s'est passé en Allemagne, ou en Autriche ce qui s'est passé en Autriche, etc. Mais aussi, quelles ont été les conséquences dans les pays voisins ? Parce que par définition, quand il y a une tragédie, quand il y a une guerre, il y a des vainqueurs, il y a des vaincus. Et les vainqueurs en gardent un bon souvenir, les vaincus en gardent un souvenir catastrophique. Et nous avons besoin de savoir comment ça s'est passé chez d'autres, et en particulier, nous avons tendance en France à ignorer complètement ce qu'a été l'histoire particulièrement sanglante, particulièrement tragique, notamment au XXe siècle, de la partie d'Europe centrale et orientale qui a été envahie successivement notamment dans les guerres, par les deux totalitarismes effroyables du XXe siècle, le nazisme et le communisme. C'est le cas de la Lituanie, c'est le cas de la Pologne, c'est le cas de la République tchèque, de la Slovaquie, etc. Et donc, avoir une histoire qui ne soit pas simplement centrée sur le nombril national, si je puis dire, mais tiennent compte aussi du regard des autres, alors des autres Européens quand on parle de l'histoire de l'Europe, et puis des autres ailleurs dans le monde quand on parle par exemple de la période coloniale.
Et comment d'après vous les jeunes Européens pourraient-ils essayer de découvrir ces différents et nouveaux points de vue ?
Alors vis-à-vis des jeunes, voyagez, connaissez l'Europe. Ça vous fait prendre conscience de l'étendue du monde et naturellement de la variété européenne. Deuxième temps, lorsque vous aurez fini vos études, ayez comme ambition de participer au grand choix politique, politique au sens noble du terme, pas politicien, au grand choix stratégique, politique, de l'Union européenne, du continent européen, de la famille européenne, qui eux-mêmes orienteront les choix planétaires, les choix mondiaux. Vous, les jeunes, soyez ambitieux, vous êtes ambitieux pour la planète, prenez le pouvoir en Europe. Vous êtes ambitieux pour votre pays, ça fait déjà longtemps que les décisions importantes pour l'avenir de votre pays ne se prennent plus à Paris, mais se prennent à Bruxelles. Prenez le pouvoir en Europe.
Merci beaucoup, Monsieur Lamassoure, pour cet éclairage, pour votre temps passé au micro des jeunes IHEDN. Merci à l'association des auditeurs de l'IHEDN. C'est grâce à ce partenariat que nous avons pu mener à bien cette interview. Merci à Nathalie de Canive, déléguée générale, sans qui ce podcast n'aurait été possible. Et enfin, merci pour votre écoute, chers auditeurs, et à bientôt sur Forêt Claire.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Forêt Claire jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de Forêt Claire.